Inspiration, expiration, c'est une affaire de respiration dans la presse de ce matin.
De respiration, de souffle. Peut-on souffler ? Bien sûr qu'on peut souffler pour le moment. L'Autriche n'est pas passée loin, elle est même passée tout près. Dernier avertissement pour l'Europe. Voilà comment l'Humanité présente le résultat de la présidentielle en Autriche, qui a donc vu le candidat vert, Alexander Van der Bellen, l'emporter sur Norbert Hofer, membre du parti d'extrême droite, FPE. Il s'en est fallu d'un cheveu, écrit l'Humain en page intérieure, soit une trentaine de milliers de voix. Parmi les origines du vote d'extrême droite en Autriche, Bruno Audan dans l'Humain distingue le traitement du dossier des migrants. Dans l'espoir de contrer in extremis la montée en puissance du vote FPE, le chancelier social-démocrate Werner Faymann avait décidé de se mettre au diapason des revendications nationalistes, de fermer les frontières et de durcir les conditions d'obtention de l'asile. Résultat, écrit le journaliste, nombre d'électeurs ont préféré l'original à la copie. Une des raisons de la défaite de l'extrême droite, estime cette fois le Figaro, ce matin, c'est une petite phrase de Norbert Hofer pendant la campagne. Vous allez être surpris de voir tout ce qu'il est possible de faire à la présidence de la République. Une phrase qui a été perçue comme une menace. Le Figaro cite aussi les félicitations que le Front National, ici en France, a envoyées au candidat du FPE battu de justesse. Un très beau résultat qui annonce des succès futurs en Autriche et ailleurs dans le monde, je cite. Et le journal rappelle que le prochain rendez-vous électoral en Autriche aura lieu dans 2 ans seulement et qu'à cette occasion, le FPE compte bien placer son chef à la chancellerie. Alors, est-ce qu'on peut souffler ? Bien sûr qu'on peut souffler, mais pas longtemps. Disons qu'à la lecture, jusqu'à la lecture de la page 22 de Libération, où l'on trouve une tribune signée de toute une série d'intellectuels et d'artistes issus des Balkans, mais aussi français, italiens, anglo-saxons. Il y a la philosophe Judith Butler, le dramaturge prix Nobel Dario Fo, le cinéaste Dany Stanovich, la sociologue Saskia Sassen, les historiens Henri Rousseau et Pape Ndiaye, mais aussi Alain Finkielkraut et Tony Negri. Finkielkraut et Negri, en mettant côte à côte notamment ces deux derniers noms, on comprend que la cause dépasse pour le moins les clivages habituels. Le premier ministre croate a nommé l'historien Zlatko Hasanbegovic au poste de ministre de la Culture, lit-on dans cette tribune. Ce dernier, en qualité d'historien, n'est connu que pour avoir défendu une approche révisionniste de l'histoire de son pays au XXe siècle. Récemment, il a publiquement déclaré que la défaite des Oustachis en 1945 représentait la plus grande tragédie nationale de la Croatie. Les Oustachis, un régime collaborationniste et génocidaire, rappellent les signataires de cette tribune dans Libé. Les Oustachis ont systématiquement ciblé, capturé, torturé et tué les Serbes, les Juifs, des Roms pour des motifs racistes, ethniques et religieux, ainsi que des musulmans bosniaques et des Croates pour des raisons politiques. Zlatko Hasanbegovic a été choisi pour promouvoir l'idéologie qu'il incarne. Ses premiers pas en tant que ministre de la Culture confirment ce constat, écrivent les signataires de la tribune. Il a supprimé le comité pour les médias à but non lucratif, a débarrassé la télévision nationale croate des journalistes qui lui étaient hostiles et a soumis les membres de l'Agence pour les médias électroniques à une pression croissante. Nous appelons à une action commune pour que l'idéologie, fondée sur le révisionnisme qu'incarnent les prises de position de Zlatko Hasanbegovic n'est plus sa place en Europe et en Croatie. Ce n'est pas une question d'opinion ou de sensibilité politique, mais l'expression de notre attachement aux valeurs fondamentales qui sont à l'origine du projet européen. Ce texte collectif est donc à lire dans Libération ce matin. Le souffle est plutôt retenu au Brésil. On retient son souffle. C'est ce qu'on lit sur le site Making of de l'AFP, un espace où les journalistes de l'agence France Presse, qui sont habituellement contraints dans leurs dépêches à une grille d'écriture plutôt stricte, là, ils se permettent le je, J-E, et le propos subjectif. Cette fois, c'est Sébastien Smith, qui est basé à Rio, qui signe un long article, donc sur la situation au Brésil, un article intitulé « La pente glissante vers la République bananière ». En ce moment, bien sûr, écrit-il, l'enjeu, c'est le pouvoir dans le plus vaste pays d'Amérique latine, mais c'est aussi, dit-il, la question cruciale à laquelle doit faire face le vice-président Michel Temer. À savoir, faut-il laisser les portraits officiels de la présidente Dilma Rousseff accrochés dans les bureaux du gouvernement ou bien faut-il les mettre au placard ? Et les nouveaux maîtres du pays ne semblent soudain plus savoir que faire, écrit Sébastien Smith. D'abord, les portraits commencent à disparaître des murs, puis Temer, comme s'il n'avait pas déjà d'autres préoccupations, comme l'économie vacillante et la formation d'un nouveau gouvernement, intervient et ordonne que les portraits soient remis en place. Pour moi, explique Sébastien Smith, cette affaire des portraits symbolise la rapidité hallucinante avec laquelle le géant économique et politique qu'est le Brésil s'est enfoncé dans cette tragicomédie digne d'une république bananière. Scandale, suspension, possible destitution, nouvelle équipe. J'y trouve pas mal de points communs avec les pays de l'ex-Union soviétique dans lesquels j'ai travaillé de nombreuses années, remarque aussi le journaliste. Et à propos du vice-président, donc Michel Temer, devenu président par intérim, voilà ce qu'il dit. Son premier acte a été de nommer un gouvernement exclusivement composé d'hommes blancs. On se croirait revenu 50 ans en arrière, écrit le journaliste de l'AFP, dans un pays qui vient d'avoir une femme à sa tête et dont plus de la moitié de la population est non blanche. Ça a été un tollé. Pour essayer de se rattraper, Michel Temer a promis de faire aussi entrer gouvernement plus tard des membres du monde féminin. Cette formulation n'a fait qu'aggraver son cas. La pente glissante vers la République bananière, c'est à lire en ligne donc sur makingoff.afp.com.
Et dans la presse de ce matin, Thomas Baumgartner, on trouve une forme de collision.
Première étape de cette collision, c'est la colère des prix Nobel français qui barre la première page du Monde daté d'aujourd'hui. Il en fut question ici. Sept prix Nobel, dont Françoise Barré-Sinoussi et Serge Haroche, et un médaille Fields, Cédric Villani, dénonce dans un texte publié par le journal du soir un coup de massue sur les budgets de la recherche française. Hasard de l'actualité, écrivent-ils, nous avons appris le même jour que les dépenses de recherche et développement de l'État fédéral allemand ont augmenté de 75% en 10 ans et que le gouvernement français annulait 256 millions d'euros de crédit 2016 de la mission recherche et enseignement supérieur. Au sein de ces mesures, on note que les principaux organismes de recherche sont particulièrement touchés, le CEA, le CNRS, l'INRA et l'INRIA, pour une annulation globale de 134 millions d'euros. Il parle donc d'un coup de massue qui vient confirmer les craintes régulièrement exprimées. La recherche scientifique française est menacée de décrochage vis-à-vis de ses principaux concurrents. Ce coup d'arrêt laissera des traces et pour de longues années, disent donc ces signataires de cette tribune. Et voilà donc, c'est dans le Monde. La deuxième étape de la collision dont je parlais, c'est-à-dire dans les Échos du jour. Le ministre de l'économie Emmanuel Macron est interrogé longuement par Nicolas Barré, Dominique Seux et Emmanuel Grasland, qui lui demande si ça va mieux dans l'industrie. Réponse du ministre, le retournement est en cours sur la R&D, donc la recherche et développement, dit Emmanuel Macron. Nous sommes compétitifs parce qu'on a une recherche académique efficace, un bon niveau de formation et un dispositif attractif avec le crédit d'impôt recherche. La recherche académique en support de la relance de l'industrie, voilà un argument qui vient en aide à nos prix Nobel.
Et pour terminer, les mots de l'écrivain Joseph Andras, qui a refusé de recevoir le prix Goncourt du premier roman il y a quelques jours.
Oui, son roman s'intitule « De nos frères blessés » autour de la figure de Fernand Yvetot, militant communiste et anticolonialiste guillotiné pendant la guerre d'Algérie. Il a répondu aux questions de l'humanité par mail, Joseph Andras. Pourquoi avoir décliné le prix Goncourt du premier roman, lui demande Lionel de Cotigny. J'ai tendance, en tant que lecteur, à fuir les ouvrages flanqués d'un bandeau rouge, répond-il. Mon livre n'était même pas sorti que je voyais ceci comme un frein à l'indépendance de l'écriture, à laquelle je tiens par-dessus tout. Tout est dans le livre, ajoute-t-il plus loin dans ces deux pages de Luma. C'est un texte que je propose, c'est donc de littérature qu'il faut parler. Tout le reste n'est à mes yeux que bruit et agitation. Et c'est ainsi que j'ai toujours aimé les livres et ceux qui les font, dit Joseph Andras, sans trop de projecteurs. Alors est-ce qu'on peut souffler ? Loin des projecteurs peut-être. Oui, bonne journée.